Un homme un jour est arrivé auprès de David et il l'a averti d'un drame. Sur la montagne de Gilboa, l'armée d'Israël avait affronté les Philistins et les Philistins avaient été vainqueurs. Et Saül et Jonathan, inséparables dans la vie, étaient tombés. Ayant appris cette nouvelle, David pleura. Il pleura sur Jonathan, son ami, mais il pleura aussi sur Saül. Inspiré par l'Esprit de Dieu, il commença à écrire un chant, le Cantique de l'Arc. Nous trouvons au deuxième livre de Samuel, chapitre 1er. Et à un moment, vers la fin de ce cantique, au verset 25, il va poser cette question. Comment des héros sont-ils tombés au milieu des combats sur la colline? Comment des héros sont-ils tombés? La Bible est lumière. Dans la Bible, il n'y a pas d'ombre. Et la Bible n'a rien à nous cacher, elle ne dissimule rien. Elle nous raconte certes les exploits de certains, mais elle nous dit tout aussi des échecs et des faillites d'autres. Non pas pour critiquer, non pas pour accabler, mais afin de nous amener à réfléchir sur notre propre vie. Et le roi Saül peut être pour plusieurs parmi nous une source de réflexion et d'inspiration. Vous me demanderez, mais pourquoi classer Saül parmi les héros? Pourquoi dire de lui qu'il est un héros alors que nous connaissons sa vie, alors que nous connaissons sa fin tragique? Et il y a beaucoup de tristesse. Mais si nous pouvons l'appeler héros, c'est d'abord parce que David l'a appelé héros. Comment des héros sont-ils tombés? Il ne parle pas simplement de Jonathan, mais il associe aussi Saül. Si nous pouvons l'appeler héros, c'est parce que Saül fut un homme de Dieu. Il fut choisi par Dieu. Il fut oint par Dieu pour une mission particulière. Il fut établi comme roi par la volonté du Seigneur pour gouverner Israël. La question que nous allons traiter ce matin est grave, elle est solennelle, mais combien importante. Elle ne concerne pas simplement les grands serviteurs de Dieu, elle ne concerne pas simplement les pasteurs, les anciens, les prédicateurs, elle nous concerne tous. Cette question est celle-ci: pourquoi et comment Saül a-t-il failli? Et comment nous-mêmes pouvons-nous éviter la faillite? Et nous tenterons de répondre à cette question en trois temps. D'abord, nous parlerons des qualités de Saül, parce que Saül était un homme de qualité. Nous parlerons ensuite du retournement de Saül et enfin de l'effondrement de Saül. Parlons d'abord de cet homme. Je vous propose d'aller dans le premier livre de Samuel, au chapitre 9, et là, nous passerons quelques versets en revue. Et tout d'abord, vous dire, peut-être pour résumer, qui était Saül, me rappelant cette phrase dite dans un contexte particulier, il y a quelques années, le meilleur d'entre nous. Et je crois véritablement qu'à l'époque de Saül, Saül était le meilleur d'entre tous les fils d'Israël. Quand nous le trouvons pour la première fois dans 1 Samuel 9:2, il nous est présenté comme un homme exceptionnel, avec des qualités physiques exceptionnelles. Il est dit, c'était un beau jeune homme. D'autres versions disent un homme d'élite. Aucun Israélite n'avait plus belle allure que lui. Il les dépassait tous de la tête. Oh, nous pouvons dire que Dieu avait donné à Israël ce qu'Israël voulait. Israël voulait un roi comme dans toutes les autres nations et un roi qui excelle en toutes choses. Et Dieu lui a donné le plus bel homme qu'Israël pouvait espérer, un véritable héros. Toutefois, ne pensons pas que Saül était simplement un homme d'apparence et que, justement, les prémices de sa faillite tiennent dans le fait qu'il ne serait qu'un homme d'apparat. Et que plus tard, Dieu, au lieu de choisir un homme selon les apparences, choisira un homme selon le cœur, David. Mais ça serait oublier deux choses. C'est que David était aussi un très beau jeune homme. Et qu'au niveau des dames, il a fait chavirer beaucoup plus de cœurs que Saül. Mais je voudrais vous dire aussi que Saül n'était pas simplement qu'un espèce d'éphèbe, de magnifique jeune homme, c'était aussi un homme avec des valeurs morales et spirituelles réelles. C'était un homme de belle taille, de belle apparence, mais c'était aussi un homme avec des qualités morales. Et nous le voyons dans le portrait qui nous est dressé de ce jeune homme. Et la première chose qui apparaît, c'est la fidélité. Saül était un homme fidèle. Il nous est présenté alors qu'il est en train de rechercher les ânesses de son père qui se sont dispersées là, dans les contrées d'Israël. Et il va fidèlement les chercher pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'il réalise que son absence cause beaucoup plus d'inquiétude que la simple perte des bêtes. Alors il dira à son ami 1 Samuel 9:5, « Viens, rentrons, sinon mon père va s'inquiéter à notre sujet sans plus penser aux ânesses. » Saül était un homme fidèle. Saül était un homme humble. C'est là la deuxième de ses qualités. Dans 1 Samuel 9:21, nous découvrons quelle fut la réponse de Saül après que Samuel lui ait révélé qu'il était le choix de Dieu pour gouverner Israël. Saül lui dit alors, « Mais ne suis-je pas de la plus petite des tribus d'Israël? Ma famille n'est-elle pas la moins importante ?» Et pourtant, c'est à lui que fut réservée la meilleure part. Cette humilité est encore mise en avant au jour où, devant tout le peuple, Samuel va établir Saül comme roi. Il le désigne devant tout le peuple, alors on le cherche. Et on le cherche, mais où est donc passé Saül? L'avez-vous vu? Non, je ne l'ai pas vu. Et puis, au bout de quelques instants, un homme, ça y est, nous l'avons vu. Il est derrière les bagages, il se cache. L'humilité de Saül était quelque chose de réel dans la vie de cet homme. Un homme fidèle, un homme humble et un homme tempéré. Quelque chose d'important, Saül savait garder les secrets. Il ne parlait pas à tort et à travers, il n'était pas arrogant. Quand, après avoir quitté Samuel, il va retrouver son oncle, et que son oncle l'interroge au sujet des choses que Samuel lui a dit, dans 1 Samuel 10, 16, il est écrit, « Il ne souffla mot de ce que Samuel avait dit au sujet de la royauté. » Oh, pourtant, il y avait de quoi bomber le torse. Rappelons-nous Joseph, qui s'était épanché et qui avait raconté aux uns et aux autres tout ce que le Seigneur lui avait montré. Saül avait gardé cela pour lui-même. Et c'est une grande qualité de savoir demeurer silencieux, de fuir l'arrogance et de garder les paroles de Dieu dans son cœur. En disant cela, je veux vous montrer donc que cet homme était un homme de valeur. C'était aussi un homme de valeur spirituelle. Alors qu'il s'apprête à quitter Samuel, dans 1 Samuel 10, verset 6, Samuel prophétise sur Saül et il lui dit, « Tu seras changé en un autre homme. » Et Dieu va lui donner un cœur transformé, un cœur nouveau. Et nous avons déjà là une image de la vie nouvelle. Et puis ensuite, il est écrit que l'Esprit de Dieu tombera sur lui et Saül va prophétiser. Enfin, Samuel va lui dire « Dieu est avec toi ». Et cette expression est très importante, elle nous renvoie au discours de Pierre auprès de Corneille dans Actes 10, 38, lorsque Pierre va lui dire au sujet de Jésus-Christ que cet homme, moins d'esprit saint et de force, qui allait de lieu en lieu et qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui, Dieu était avec Jésus, Dieu était avec Saül. Et ce n'est pas simplement une question de grâce, c'est une question de faveur, c'est beaucoup plus fort. La faveur de Dieu était sur Saül en vue que les projets de Saül soient couronnés de succès. Voilà ce que veut dire cette expression « Dieu était avec lui ». Et c'était enfin un homme avec un appel et une onction. 1 Samuel 9, 24, le prophète lui dit « Une part a été réservée pour toi. Quelle part ? Celle d'être chef, celle d'être roi. » En Israël. Il y avait donc un véritable appel de Dieu sur cet homme. Il y avait une mission de Dieu pour cet homme et il y avait une onction de Dieu pour cet homme. Oh, souvent nous avons décrié le fait que Saül a été oint avec une fiole. Qu'est-ce qu'une fiole d'huile comparée à la corne avec laquelle Samuel a oint David? Qu'est-ce que cette fiole d'huile avec la plénitude du Saint-Esprit qui descend sur Jésus? Certes, ce n'était qu'une fiole d'huile et nous comprenons toute la symbolique symbolique, mais laissez-moi vous dire que c'était quand même une onction prophétique qui était sur la vie de cet homme. Il était désigné comme roi d'Israël par le Seigneur. Quand je parle de Saül, je pourrais parler de chacun d'entre nous. Je ne suis pas en train de nous demander qui est le plus beau, qui est le plus humble, qui est ceci, qui est cela. Nous avons tous nos qualités. Je veux aussi me souvenir que nous avons tous reçu la même vie de Jésus. Je veux aussi me souvenir que nous avons tous été oints par le même esprit, en vue d'une mission à accomplir. Oh, peu importe la part que nous avons, mais nous avons tous une part dans le royaume de Dieu, comme Saül a eu la sienne. Saül nous donne un bon exemple de serviteur de Dieu, rempli de qualité. Mais il nous amène à comprendre que la véritable question, ce n'est pas ce que nous avons, mais c'est ce que nous en faisons. Parce que nous avons tous reçu du Seigneur. Mais qu'en faisons-nous et qu'en ferons-nous ? Voilà pour vous dire donc que Saül était un homme qui méritait d'être rencontré, n'est-ce pas ? Un homme de valeur. Et puis, le Seigneur a quand même voulu éprouver Saül. Non pas qu'il ait voulu faire chuter Saül, mais Dieu voulait connaître vraiment la nature de son cœur. Et Dieu a permis que deux épreuves soient placées devant Saül, afin de connaître la réalité de son cœur, mais aussi afin de lui permettre de s'affermir et de consolider son règne. Voyez-vous, le Seigneur sait ce qu'il nous a donné, il sait ce que nous sommes, mais il permet des épreuves afin de vraiment connaître notre cœur, afin que nous soyons affermis dans la foi en vue de notre service. Dieu a donc éprouvé par deux fois Saül. Il y aura un test d'humilité et une épreuve de fidélité. Mais ce qui est important de retenir avant d'aller plus loin, c'est que dans ces deux épreuves, dans ces deux tests, Dieu était avec Saül. Dieu n'a pas abandonné Saül. Certes, Dieu a observé Saül, mais avant que l'épreuve commence, il y avait d'abord la parole de Dieu. Et la parole de Dieu était là pour baliser le chemin de l'épreuve. La parole de Dieu était à côté de Saül. Il pouvait s'appuyer sur cette parole afin de traverser l'épreuve, de supporter l'épreuve, de remporter la victoire. Dieu nous donne toujours les moyens de traverser les épreuves. C'est ce que Paul nous dit. Tout d'abord, il est question d'une épreuve de fidélité. Au jour de sa rencontre avec Saül, Samuel lui avait dit ceci, 1 Samuel 10, verset 8, il lui dit, tu me précéderas à Gilgal, où je te rejoindrai pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion, et tu m'attendras 7 jours jusqu'à ce que je vienne. Quelque temps plus tard, 1 Samuel chapitre 13, Saül est roi et il se retrouve à Gilgal avec ses armées. En face de lui, il y a le camp des Philistins. Et donc Saül connaît la parole de Samuel, tu attendras 7 jours. Et mettons-nous dans le contexte. 7 jours pendant lesquels 2 armées se font face à face. Mais une armée est bien plus forte que l'autre, c'est l'armée des Philistins. L'armée d'Israël est une armée de paysans. Une armée sans expérience. En face, une armée de soldats aguerris. Et pendant 7 jours, Saül va devoir attendre et les jours passent et chaque jour qui passe, l'armée des Philistins se renforce, les régiments arrivent, les uns après les autres, ils installent des retranchements, ils fortifient leur camp. Et pendant ce temps, l'armée d'Israël, qui n'est pas bien grande, qui n'est pas bien forte, elle commence à prendre peur. Et ces soldats paysans, au fur et à mesure, se retirent. Ils ont peur, ils se retirent. Et Saül doit gérer tout cela. Il y a la pression qui est là. Je dis cela pour que nous puissions quelques instants nous mettre à la place de Saül, mais peut-être avez-vous connu ce qu'est la pression. La pression sur votre lieu de travail, la pression par rapport à l'épreuve de la maladie, la pression par rapport à des problèmes matériels ou autres. Vous savez ce que représente une pression, surtout quand l'ennemi est en face de vous. Vous avez une parole de Dieu qui vous dit d'attendre, mais chaque jour où vous attendez, chaque instant qui passe, l'ennemi se renforce et vous avez l'impression de vous affaiblir. Quelle pression sur Saül ! Et le septième jour arriva, le matin se leva. Et j'imagine que notre Saül a dû se lever très tôt pour monter sur la colline et voir à l'horizon si enfin Samuel arrivait. Mais les heures s'écoulaient, et le septième jour avançait, et Samuel n'était toujours pas là, et l'armée des Philistins se faisait pressante, et l'armée d'Israël avait de plus en plus peur, et Saül était sous une pression de plus en plus grande. Et Samuel n'était pas là. Saül était un homme fidèle. Mais ce jour-là, sa fidélité fut terrassée. S'appuyant sur ses capacités, il a craqué. Il a craqué dans la pression. Il a craqué face à son environnement. Et il dit, je vais me faire violence, je ne peux plus attendre Samuel, il faut qu'on fasse quelque chose. Les Philistins sont là, mes soldats s'en vont, offrons les sacrifices et partons au combat. Et alors qu'il venait juste d'achever d'offrir les sacrifices, voilà que Samuel arrive. Et Samuel arrive avec une parole terrible. Un Samuel 13-13. Il le reprend devant son peuple. Tu as agi comme un insensé. Tu as désobéi. Ta royauté ne subsistera pas. Quelle parole pour Saül ! Quelle parole ! Comprenons que Samuel avait donné une parole de Dieu à Saül. Tu attendras 7 jours et j'arriverai jusqu'à ce que je vienne. Et la parole de Dieu ne pouvait manquer de s'accomplir. Mes frères et sœurs, lorsque nous sommes dans un environnement oppressant, lorsqu'il peut nous arriver de faire face à des situations où nos qualités morales, personnelles, notre fidélité, notre patience sont mises à l'épreuve, il demeure la parole de Dieu. La parole de Dieu n'était pas loin de Saül, elle était à la portée de Saül. Mais l'environnement est devenu tellement oppressant que Saül a craqué. Il a lâché la main de Dieu. Il n'a pas su attendre jusqu'au moment où cette parole se réalise. Et là, peut-être plusieurs d'entre nous disent « ça, j'ai connu ». Ça, j'ai connu. Et nous réalisons que Saül nous ressemble et que nous ressemblons à Saül. Nous avons de bonnes intentions, mais elles sont insuffisantes. Ce qui nous sauve, ce ne sont pas nos capacités. C'est la parole de Dieu. Il y a eu l'épreuve de la fidélité, il y a eu l'épreuve de l'humilité. Quelque temps plus tard, Dieu envoie encore Samuel vers Saül, 1 Samuel 15. Si vous voulez suivre dans ce chapitre, nous allons nous arrêter sur quelques mots. Et le Seigneur dit à Saül, maintenant tu vas aller combattre Amalek. Et tu vas exterminer, tu vas tout détruire parmi Amalek. Saül part au combat et il remporte la victoire. Magnifique victoire. Les armées d'Amalek sont vaincues et puis il commence à ravager Amalek comme Dieu lui avait dit. Seulement, il ne va pas aller jusqu'au bout du commandement du Seigneur. Il nous est dit qu'il va épargner à Agag, le roi d'Amalek. Et en plus, il va se garder un troupeau. Ah, bien sûr, il sera consacré au Seigneur. Mais toutes les bêtes chétives et méprisables, il va les abattre. Tandis que les belles bêtes, il va les garder. Et voilà que Samuel arrive. Et nous savons ce qui va se passer. Saül se réjouit. Mais Samuel est alerté. Qu'est-ce que c'est que le son de ces animaux, le bruit de ces animaux ? Ces troupeaux, c'est quoi ? Et cet homme-là, c'est qui ? Et alors, à travers Samuel, la colère de Dieu se manifeste. Et pour nous, nous avons cette idée que le problème de Saül-là fut un problème de désobéissance. Tu as désobéi. Tu as désobéi à la volonté du Seigneur. Et à cause de cela, Samuel dit à Saül, « Maintenant, Dieu te rejette. Et Dieu en choisit un autre meilleur que toi. Ça sera David. » Mais laissez-moi vous dire que le problème, l'épreuve là, ce n'est pas une épreuve d'obéissance. Le problème, ce n'est pas un problème de désobéissance. La désobéissance n'est que l'aboutissement d'un autre sentiment qui avait gagné le cœur de Saül et qui était lié à l'humilité. L'humilité, Saül, cet homme humble, avait fini par se rappeler qu'il faisait une tête de plus que tout le monde. Et il s'est laissé gagner par la suffisance. Voulez-vous que je vous montre comment ? Laissez-moi vous dire que cette suffisance est la racine de la désobéissance. Regardez ce que Samuel lui dit au verset 17 de Samuel 15. Quand la première chose qu'il lui dit, il ne lui dit pas « tu as désobéi », il lui dit « lorsque tu étais petit à tes yeux ». Dieu met tout de suite le doigt sur le problème. « Lorsque tu étais petit à tes yeux, tu m'as désobéi parce que ton cœur a changé. » Regardez ensuite. Verset 12, nous allons voir deux mots qui vont nous montrer ça, la suffisance dans le cœur de Saül. Deux mots, verset 12. Saül est à Carmel, il vient de remporter la victoire sur Amalek, il est écrit, il s'est érigé un monument. Les rois de l'époque, je crois que ça se fait encore aujourd'hui, c'est pour certains, pour célébrer leur victoire et leur gloire, se faisaient construire des stèles, des monuments. Il était un temps où Saül bâtissait des autels. Maintenant, il se bâtit des monuments. Il bâtissait des autels à Dieu. Maintenant, il se bâtit des monuments à sa gloire pour célébrer ses victoires. Combien d'hommes dans la Bible ou dans l'œuvre de Dieu ont fini un jour par bâtir des monuments après avoir bâti des autels ? Et ils ont transformé leur ministère en un monument à leur propre gloire. Mais partout où nous trouvons des monuments à la gloire de l'homme, savez-vous ce qu'ils deviennent ? Les tombeaux de ces hommes. Et Saül ne bâtissait plus des autels à Dieu, mais des monuments à sa gloire. Et la deuxième chose sur laquelle Samuel met le doigt au verset 19, il a cette parole terrible. « Vous, vous êtes fait, tu t'es fait un butin. De troupeaux qui sont là, tu t'es fait un butin. » Saül aura beau dire, mais ça c'est pour le Seigneur, et puis c'est pas moi, c'est eux. Mes frères et sœurs, là nous touchons quelque chose de très important, surtout dans une époque où nous sommes cernés par une prédication qui s'appelle la prédication de la prospérité, du matérialisme, qui transforme bien des prédicateurs, bien des hommes de Dieu, bien des chrétiens en des chercheurs de butin. Et ils transforment leur victoire en butin. Ils transforment leur victoire en monument. Ce que Dieu leur avait donné comme victoire, ils en font un monument et ils en font un butin. Ils sont avides de butin. Et quand l'œuvre de Dieu grandit, quand il y a des phases de croissance, alors certains voient maintenant le royaume de Dieu comme un moyen de s'enrichir. Oh, bien sûr, ils diront, oh, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Mais ils sont avides de butin. Avides de butin. Leur cœur est plein de suffisance. Ce n'est plus Dieu le premier. C'est eux qui ont pris la place. Oh, il est loin, cette époque, elle est lointaine, cette époque. Pourtant, où Saül se cachait derrière les bagages. Où Saül, après avoir été couronné roi, s'en est retourné dans ses champs pour labourer derrière ses bœufs. Maintenant, Saül saisissait le pan de Samuel pour lui dire « Honore-moi devant tous. » La suffisance avait gagné le cœur de Saül. Il a échoué à l'épreuve de l'humilité, il a échoué à l'épreuve de la fidélité. Saül a donc failli là même où il était fort. C'était un homme humble, naturellement. C'était un homme fidèle, naturellement. C'était un homme naturellement tempérant. Mais sur ces trois choses, il a failli lorsqu'il s'est retrouvé au milieu de l'épreuve. Pourtant, la parole de Dieu était à côté de lui. Je vais avancer maintenant sur mon dernier point et parler de l'effondrement de Saül. Quand un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un frère, une sœur s'effondre quand il tombe, quand elle tombe, ce n'est pas simplement pour une raison, c'est pour un ensemble de raisons. Ce n'est pas quelque chose qui se fait immédiatement, mais c'est un travail progressif, c'est un travail graduel. Un travail d'érosion spirituelle. Au début, une fissure, une lézarde, qui avec le temps est devenue une brèche qui a emporté tout le reste. Mais je veux me poser cette question avec vous, qu'est-ce qui a précipité la chute de Saül, la faillite de Saül ? Et là, nous touchons à quelque chose de très important. Saül s'est enfermé sur lui-même. Tout comme Caïn s'enferma dans sa jalousie jusqu'à tuer son frère et à s'éloigner définitivement de la face de l'Éternel. Tout comme Achitophel, si certains vous s'en rappellent, le grand-père de Bathsheba s'est enfermé dans sa haine contre David jusqu'à finir pendu dans sa maison. Saül s'est enfermé dans sa suffisance. Il s'est enfermé dans ses sentiments mauvais, dégradés. Il est devenu une prison intérieure. Et cette prison a été verrouillée par des esprits méchants que le Seigneur a envoyés. Et le verrou de cette prison s'appelait la jalousie. Quelqu'un a dit de la jalousie qu'elle vient de l'enfer. Et la jalousie a écrasé Saül. Car bientôt, voici que l'homme de Dieu arrive. Et il remporte des victoires. Et les jeunes filles de Jérusalem vont dire, « Saül a frappé 6 000 et David a frappé 10 000 !» Et alors, en un instant, Saül devient plein de fureur, plein de haine à l'égard de David. Il ne pouvait supporter que quelqu'un d'autre que lui reçoive de la louange. Et la jalousie a pénétré son cœur, elle a endurci son cœur au point de devenir un sentiment de haine qui aurait pu le conduire jusqu'au meurtre si Dieu ne veillait pour protéger son serviteur David. Mes frères et sœurs, question, combien d'entre nous ou combien de fois avons-nous vu des frères, des sœurs s'enfermer dans des sentiments d'amertume, s'enfermer dans des sentiments de jalousie, de colère, devenant des prisons intérieures dans leur propre vie et perdre cette communion avec l'Esprit Saint au point de devenir accessible à des esprits méchants comme c'est arrivé pour Saül. Et ils les ont fermés à double tour et ses frères et sœurs se sont retrouvés prisonniers, esclaves, au point de mourir et de perdre toute communion avec le Seigneur. Au bout du compte, Saül dut rendre compte. Et là, sur la montagne de Gilboa, cerné par les Philistins, il fut vaincu. Comme c'était un déshonneur pour les rois de l'époque de mourir de la part de ses ennemis, il se jeta sur son épée. Mais le coup ne fut pas fatal. Alors, craignant que les soldats viennent à lui et outragent son corps, il demanda à un jeune homme qui passait par là de s'approcher. « Hé, qui es-tu ?» Et l'autre de lui dire, « Je suis un Amalécite. » Et lui dit, « Frappe-moi. Fais-moi mourir avant que les Philistins arrivent. » Et l'Amalécite le tua. Un Amalécite. Et si Saül avait obéi au Seigneur, il aurait dû tuer tous les Amalécites. De quoi nous parle cet Amalécite ? Il nous parle de cette chair que nous laissons vivre et que nous n'avons pas crucifiée en Jésus-Christ. Tout ce que nous n'avons pas mis à mort devant le Seigneur, que nous avons laissé survivre et qui un jour finira par nous tuer. Et nous pouvons réfléchir à cela pour nous-mêmes. En tout cas, c'est une leçon très importante. En conclusion, que dire ? Comment les héros tombent-ils sur les montagnes ? Et nous dirons, mais c'est Saül qui a eu raison de Saül. C'est bien ce que nous voyons avec cette épée. C'est lui-même qui s'est donné la mort. Non pas simplement par l'épée, mais en s'enfermant dans ses sentiments. Les qualités de Saül étaient réelles. C'est un homme humble, un homme fidèle, un homme tempéré, mais ses qualités étaient insuffisantes face aux enjeux du royaume de Dieu. Et sous la pression, face aux épreuves, sa chair l'a débordé. Son caractère l'a débordé. Son caractère l'a emporté, l'a englouti, l'a anéanti. Et ainsi il périt. La faillite de Saül tient donc dans le fait qu'il n'a pas su conserver ses qualités. Il y avait plus d'un jeune serviteur de Dieu, plus d'un chrétien, d'un frère, d'une sœur a ainsi commencé dans le ministère ou dans sa marche avec Dieu. Pendant des années, il a bien agi. Pendant des années, il a été en bénédiction. Jusqu'au jour, quelque chose a changé dans son cœur. Dieu n'était plus à la première place. Il ne savait plus attendre Dieu comme il fallait. Et puis Saül a fini par se détourner de Dieu. Au point, comme David le dit dans son cantique de l'arc, l'huile avait cessé d'oindre le bouclier de Saül. L'Esprit de Dieu n'était plus sur Saül. Voilà comment les héros finissent par tomber au milieu des combats sur la colline de Gilboa et David pleura sur la mort de Saül. Et nous-mêmes, comment ne pas nous sentir saisis dans nos cœurs face à ce drame tragique, la mort de ce héros, le meilleur d'entre nous qui finit sur la colline maudite. Mes frères et sœurs, nous avons tous été témoins de tant de chutes. Qu'elles concernent les prédicateurs, qu'elles concernent des frères et des sœurs. Et nous sommes saisis dans nos cœurs au souvenir de ces choses. Nous nous sommes nous-mêmes posé la question et nous avons pleuré, mais comment sont-ils tombés ? Et nous comprenons, non, ce ne sont pas les Philistins qui l'ont fait tomber. Ce sont les sentiments de son cœur. Il s'est enfermé, elle s'est enfermée, au point de devenir une prison d'amertume, une prison de colère, une prison de rancune, une prison de jalousie, une prison de non-pardon. Et l'ennemi la tenait cadenassée, l'enfonçant jour après jour. Nous voyons comment Saül a dépéri. Ce jeune homme si magnifique, ce jeune homme plein d'allant, nous le voyons au fur et à mesure de sa chasse après David, courir le désert comme un chien court après une puce, comme David le dit, se tenant là d'une façon pathétique dans sa caverne et David, et derrière pouvant le tuer à chaque instant, arrachant un pan de son manteau. Nous le voyons là, courir sans arrêt, perdu, pris par un esprit de méchanceté, incapable de revenir à sa bonne raison. Et nous sommes attristés, mais que t'arrive-t-il, Saül ? Reprends-toi, Saül ! Et alors nous pensons à ce frère, nous pensons à cette sœur, nous pensons à cet homme de Dieu, et nous disons, mais que leur est-il arrivé ? Et ce matin, mon frère, ma sœur, qu'en est-il de toi ? Quels sont les sentiments qui sont dans ton cœur ? Il y a ce que tu étais au début, cette joie qui t'animait, cette passion, cette humilité, cette simplicité. Il y a ce que Dieu t'avait donné et il y a maintenant. Qu'en est-il de ce maintenant ? Combien, au long de leur marche, ont commencé à nourrir des sentiments dégradés ? Et vous savez le problème ? C'est qu'ils se justifient, comme Saül, ils se justifient dans leurs sentiments dégradés. Il se justifie, il trouve des raisons de justice dans le fait d'être en colère, d'être dans la haine, d'être dans la jalousie, d'être dans la rancœur. Et ils ne se rendent pas compte que celui qui est derrière, ce n'est pas Jésus, mais c'est Satan qui utilise un aiguillon. Et vas-y, et t'as raison, et t'as raison, et t'as raison. Et eux, alors, ils s'enferment de plus en plus. Et un jour, ils tomberont. Ils tomberont sur la colline de Gilboa, la colline maudite. Mon frère, ma sœur, prends garde à ces choses. L'histoire de Saül aurait pu être tout autre. La parole de Dieu était à côté de lui. Dans toutes les épreuves que Dieu a permis pour fortifier, pour édifier Saül, il y avait la parole du Seigneur. Nous n'allons pas accabler Saül parce que plus d'une fois nous-mêmes nous avons échoué. Moi aussi j'ai échoué. Je n'ai pas su attendre comme il faut par moments. Mais nous bénéficions de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et nous voulons apprendre. Mais nous disons, Seigneur, c'est le choix de ta parole qu'il nous faut faire. Et non pas le choix de nos propres forces. Parce que nous nous effondrons. Ne choisis pas de t'appuyer sur tes capacités. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Garde une communion avec le Seigneur. La vie de Saül est là pour nous instruire, elle est là pour nous avertir. Elle est là encore pour, je dirais, asseoir la crainte de l'Éternel dans notre cœur. Elle est solennelle. Mais ô combien enrichissante pour notre propre vie. Mon frère, ma sœur, entends le chant de David et entends la parole du Seigneur pour toi ce matin. Allons incliner nos fronts.